cette réunion du conseil municipal du 12 avril, aujourd'hui même. Donc je commence par faire l'appel. Donc Isabelle Cuisard présente, Gilles Cousin.
Présent.
Juliette Patron-Kikama. Gilles Chicot.
Présent.
Séverine Ségisson.
Présente.
Corinne Durand.
Présente.
Mélanie Arnal.
Elle va arriver plus tard.
Elle doit arriver plus tard. Hélène Bonnécuel.
Présente.
Dominique Baril.
Présent.
Guillaume Garcin.
Présente.
D'accord, donc finalement, c'est bon, on est dans ça là. Laurent Mailloux.
Présent.
Jean-Claude Mouret.
Présent.
Claudine Moyal.
Présente.
Patrick Ortigoza.
Présent.
Véronique Pomarel.
Présent.
Laurent Prat.
Présent.
Laurence Rousseau.
Présent.
Bernard Senot devrait arriver. Et Yolande Thermont.
Présent.
Voilà, donc nous sommes quasiment au complet, donc on peut vraiment valablement délibérer. On va faire tourner les feuilles d'émargement. Et voilà, Bernard, c'est
moi
qui
a
fait
le tour.
Pas de problème,
j'espère
qu'on commence
tout. Elle n'est pas
mieux
réveillée.
C'est
l'heure.
Donc je vous avais sous les yeux l'ordre du jour de cette séance du conseil qui comprend 8 points, dont 6 points concernant le budget. Est-ce qu'il y a des observations? Il n'y a pas d'observation, donc je mets au vote l'ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Merci. Qui veut bien être secrétaire de séance?
Ouais, tu peux me mettre.
Séverine? Merci beaucoup, Séverine. Donc, Séverine Ségisson. Et donc, vous avez le compte-rendu de la dernière séance donc, du 27 janvier. Est-ce qu'il y a des observations sur ce compte-rendu? S'il n'y a pas d'observation, je mets au vote. Qui est contre son approbation? Qui s'abstient? Donc le compte-rendu de tenant lieu de procès-verbal donc de la séance du 27 janvier est approuvé à l'unanimité. Et puis donc on peut commencer l'ordre du jour. Alors avant d'aborder le budget, on a deux points. Un point concernant le premier, c'est Guillaume qui présente l'adhésion à une convention de gestion de services numériques, donc une plateforme mutualisée avec la métropole.
Donc les militaires de la métropole et l'ensemble de ces communes ont développé depuis de nombreuses années un outil partagé afin de répondre conjointement aux défis et aux opportunités qu'offrent la numérisation, la dématérialisation et l'informatisation des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Ces évolutions technologiques impactent à la fois leur fonctionnement interne, leurs échanges avec les tiers publics et privés, leurs relations avec les administrés. L'ensemble des acteurs souhaitent poursuivre cette coopération afin de disposer de services publics modernes et efficaces qui puissent offrir à leurs partenaires et à leurs administrés une réactivité et une sécurité informatique optimales. Cette mission d'intérêt général partagé permet de développer une identité numérique métropolitaine et communale respectueuse de l'ensemble des libertés individuelles, conforme au règlement général pour la protection des données désormais en vigueur au sein de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Cette coopération entre personnes publiques s'inscrit dans les dispositions du Code général des collectivités territoriales et du Code de la commande publique. La présente convention établie en application des articles L5217-7 et 5215-27 du Code général des collectivités territoriales a pour objet de mettre en place des solutions partagées entre la commune de Muriel-et-Montpellier et la métropole en matière d'administration électronique, de services en ligne aux usagers, de dématérialisation des procédures de marché public en application des dispositifs réglementaires et législatifs en vigueur, de mise à disposition publique de données numériques open data, d'une plateforme de participation citoyenne, et d'une plateforme de télé-alerte, et aussi d'un service permettant des échanges interprofessionnels entre personnes sourdes, malentendantes et entendantes. Le détail des missions est présenté dans la convention jointe à la présente délibération.
Tu veux peut-être te souvenir ? Oui. Ouais.
Si vous voulez, hein, c'est un peu... Sinon, les prestations mentionnées dans l'article 2 et 3 de la convention portant sur la mise en œuvre, la maintenance et l'évolution des adaptations partenaires, communautés partenaires pour l'ensemble d'un coût annuel forfaitaire établi pour chacune des applications mentionnées à l'article 1. La diffusion de données informatiques publiques participe au développement de l'écosystème numérique métropolitain. La mise en œuvre, la maintenance et l'évolution de la plateforme Open Data ne fera l'objet d'aucune refacturation aux communes et CCS partenaires au titre de la convention. Donc on a des coûts en annexe 1. Je vous fais grâce du tableau récapitulatif des coûts. Le montant de la prestation globale annuelle établie en fonction de ces dispositions et du nombre d'applications mises en œuvre par la commune s'élève à 145,94 €. Et voilà, c'est pour la période 2022-2023-2024. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser l'adhésion à la présente convention et à autoriser Madame le maire à signer la convention ainsi que tous les documents relatifs à cette affaire.
Merci Guillaume. Donc peut-être concrètement expliquer concrètement de quoi il s'agit et comment ça évolue par rapport à une évolution par rapport à ce sur quoi on a déjà adhéré les années précédentes. Oui, Nathalie.
Il y a des nouvelles dispositions effectivement par rapport à l'ancienne convention. Pour l'administration électronique, là, on va pouvoir avoir accès à la dématérialisation des convocations du conseil municipal, par exemple. Service en ligne d'usagers, là, ça n'évolue pas. Et vous avez certainement dû voir sur le site internet de la commune les possibilités que l'on a de faire des demandes d'actes si d'état civil, par exemple, en ligne pour les usagers. Donc, c'est directement lié à cette convention. Les procédures de marché public, donc ça c'est des plateformes après interprofessionnelles qu'on utilise quand on fait des marchés, qu'on doit dématérialiser, on utilise la plateforme de la métropole. Plateforme de participation citoyenne, ça c'est quelque chose de nouveau, puisque ça permet effectivement sur une plateforme mutualisée avec la métropole de mettre en place des enquêtes pour le public,
des dépôts de projets, budgets participatifs.
Des budgets participatifs. Télé-alerte, ça va arriver, et service aux personnes malentendantes, c'est en cours aussi, et il y a une formation qui sera dispensée début mai justement pour les agents d'accueil des mairies, et moi je vais y aussi participer pour justement être formée sur ces plateformes, ces enseignements. Ça c'est des évolutions, effectivement.
Donc voilà, c'est des outils, c'est des outils mutualisés qui sont mis à notre disposition en fait par la métropole, donc ça facilite le travail hein, concrètement. Et ça amène des petites innovations aussi. Hein. D'ailleurs, je vous ai fait suivre toute la présentation du dispositif de participation citoyenne. C'est très intéressant. Et je pense que ça peut nous amener, nous aussi, à réfléchir avec cet outil à cet intéressant. Comme, par rapport à nos projets, de voir comment on peut l'utiliser. Donc, c'est une somme assez modique, hein, 145,94 €, et ça apporte pas mal de services. Est-ce qu'il y a des observations, des questions ?
Les permis de construire, Nathalie, sont déposés maintenant numériquement.
Attends,
Gilles ou Violande ? Oui, il y a des actes comme les permis de construire, maintenant on peut les déposer numériquement, il n'y a plus besoin d'imprimer du papier. Ça fait partie de cette démarche-là.
Non, parce que c'est la forme directe sur les services métropolitains qui sont pas en lien avec la mutualisation.
Ok.
C'est d'autres outils.
C'est d'autres outils, mais effectivement, aujourd'hui, on peut le faire numériquement.
Tout à fait.
Yolan,
on est sur le service de l'alerte. C'est la météo, c'est quoi ?
Oui, c'est tout ce qui est alerte météo, alerte séisme, enfin tout ce qui est alerte, on va dire préfectorale, mais qui est décliné sous une.
Voilà. Il y a le dispositif Ville en alerte, qui aujourd'hui a un dispositif qui est mis en place par la ville de Montpellier et qui va être élargi à l'ensemble des communes de la métropole. L'idée étant, pourquoi pas, peut-être à terme, à arriver des plans communaux de sauvegarde, non plus communaux, mais intercommunaux. C'est un dispositif qu'on a mis en place, notamment pour les inondations.
En plus de Prédicte, ce
sera. Prédicte, oui, c'est la préfecture.
C'est quelque chose qui va
se rajouter. Voilà. Bah, c'est un outil qui vient compléter Prédicte, c'est-à-dire, oui, si tu veux avertir directement les personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on n'a pas, je mets le vote. Et contre cette adhésion, qui s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et c'est Juliette qui présente notre nouveau contrat d'assurance statutaire.
Le deuxième point concerne le renouvellement du contrat d'assurance par rapport aux absences pour maladie des agents. Du coup, le courtier assureur choisi a été grâce à voie générale. Et il a pris effet le 1er janvier 2022 et il va jusqu'au 31 décembre 2025. Donc il couvre les risques par rapport aux absences des agents.
Par rapport au contrat précédent,
ça baisse la cotisation des agences CNRACL. Avant, on était à 6,60 et là, c'est 6,49. Et pour les agents IRCANTEC, on était à 1,15. Et là,
ça augmente pour les. Ça augmente de 1,73%.
Pour les
non-titulaires, les agents
titulaires. C'est ça, pour les IRCANTEC. Les IRCANTEC.
Et pour les fonctionnaires,
ça baisse puisque c'est à 6,60 pardon, et on passe à 6,49.
D'accord.
Avec la franchise de 15 jours, ça va passer à 1 jour.
On est toujours avec la franchise de 15 jours.
D'accord. Oui.
C'est celle qu'on a choisie, hein, parce qu'il y a les différents niveaux de franchise qu'on pouvait prendre. D'accord. Donc ça, c'est un marché entre guillemets d'assurance qui est monté par le centre de gestion. Pour nous. Oui. Qui forcément est un beaucoup plus important, une force de négociation qui est plus importante que si les communes allaient séparément négocier leur contrat d'assurance, j'imagine.
Oui.
Je ne sais pas d'ailleurs si toutes les communes qui sont au centre de gestion adhèrent à ce même contrat d'assurance ou s'il y a des exceptions.
Non, c'est le même. C'est eux qui négocient.
Et après, c'est tout le même.
Ouais. À part sur les grosses collectivités, je pense que les grosses collectivités, d'ailleurs, n'adhèrent pas au centre de gestion, elles gèrent elles-mêmes. Mais toutes les collectivités, comme Montvienne, on adhère au contrat groupe, hein, c'est eux qui gèrent la négociation.
Ça concerne les structures de 29 agents en plus.
Voilà.
Il n'y a pas de malus là, non? Parce que. Non.
Non, il
n'y
a pas de malus.
Il y a un peu le bonus malus.
Non, mais par contre, on est là. Par rapport au groupe, c'est avantageux pour la
commune.
D'accord.
Les gardes d'absence.
Bien, donc par rapport. Alors là, c'est un contrat qui a quelle durée de.
De 2022 à 2025.
D'accord, c'est pour 3 ans.
C'est pour 3 ans et c'est possible. Mais bon, après, c'est calculé. C'est possible de. C'est résiliable chaque année. Avec un préavis de 6 mois.
Très bien. Parfait, ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Juliette et Nathalie?
Oui, je voudrais savoir ce que recouvre le régime du contrat capitalisation. Pourquoi on ne met pas en mutualisation?
Capitalisation.
Oui, la proposition du conseil est acceptée, le droit du contrat, régime du contrat, capitalisation.
Le régime du contrat, capitalisation, tu poses la question là-dessus?
Oui.
Bah, c'est la proposition du contrat qui a été négociée par le centre de gestion. Hein.
C'est un pack.
Donc c'est une assurance privée. à poser.
Complètement.
Ah oui, 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 c'est une assurance privée.
C'est une assurance privée.
Oui, oui.
On n'a pas d'autres. On n'a pas. Il n'y a pas d'autres types d'assurance. Oui, voilà, on s'assure nous-mêmes.
Oui, oui. Et surtout, les fonctionnaires ne relèvent pas de la sécurité sociale. Donc, nous n'avons pas de remboursement de cette. Par là, donc il faut assurer le risque, ce qui nous permet effectivement de continuer à payer, enfin des subrogations employeurs, on continue à payer les agents qui reçoivent leur traitement en intégralité ou en demi-traitement selon la durée de la maladie. Et nous, effectivement, cette assurance prend en charge ce que l'on a, ce que l'on verse aux agents. Voilà, donc c'est un coût de 28 000 euros par an.
On doit nous assurer nous-mêmes, hein. On n'est pas
28 000 euros.
Ça, c'est la cotisation.
C'est la cotisation.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que c'est basé sur le pourcentage de masse salariale. C'est le pourcentage de
la santé.
Vous avez peut-être.
Et puis on a des franchises quand même, 10 jours, 15 jours, 30 jours.
C'est des choix.
Nous, c'est 15 jours.
Le choix, c'est 15 jours.
Voilà. Mais après,
on a pris 15 jours.
Ça ne couvre pas les petits arrêts maladie.
Voilà.
Et ouais, c'est ça. Ouais.
En revanche, quand on a dans la collectivité des agents avec des maladies de longue durée ou des affections. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça permet de faire
un petit peu. Mais tous les cas de Covid qu'on a, par exemple, on n'est pas remboursé.
Non, pour cette fois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on a observé, nous, dans le mandat précédent, c'est qu'en dessous de 15 jours, c'est assez rare qu'on remplace. Ou si on le fait, c'est vraiment au centre de loisirs. Pour, voilà. Et donc, en fait, c'est plus on prend un délai faible, plus l'assurance est chère. Donc, c'est une.
Bien sûr.
C'est une balance à trouver entre le délai de carence et puis le. Et ça, c'est lié à la. C'est une analyse qui avait été faite avec l'aide du consentement de gestion et au vu de des statistiques, je dirais, enfin, de ce qui se passe sur la commune, le bon choix était les 15 jours.
Il ne précise pas s'il y a des clauses d'exclusion ou quoi. Parce qu'en tout contre assurance, on verra, il y a des clauses d'exclusion. Donc là, je ne vois pas, je ne sais pas.
Là, je
ne
sais pas
si
le contrat.
Je ne suis pas spécialiste.
Dans les détails,
des fois, avec les assurances, il faut regarder les alinéas.
C'est un contrat qui court déjà. Qui là,
c'est un renouvellement.
C'est un renouvellement d'un contrat déjà en cours. C'est un contrat qui est déjà utilisé et actualisé. Simplement, le centre de gestion l'a revu pour une mutualisation, en tout cas pour faire diminuer le coût. Et que tout le monde en profite.
D'accord,
donc en fait, voilà, il est simplement en cours et renouvelé.
Je pense qu'à partir du moment où tu fais partie du contrat groupe, bah, ils prennent le package. Hein, voilà. Après, s'il y a une collectivité où il y a plus d'absence de remboursement, après, c'est le jeu aussi. Hein, voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres observations ? Du coup, je mets au vote. Qui est contre ? La signature de ce contrat, qui s'abstient. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors maintenant, on va passer aux parties budgétaires et on commence avec deux affaires, même trois, qui concernent les résultats 2021. Donc le compte de gestion et le compte administratif. Donc là, pour ça, vous avez un document sous les yeux. Donc avant de passer au vote lui-même, il y a des petites diapos. Donc c'est Verine ?
Oui. Je vais faire plusieurs fois le même exercice là sur les quelques jours. Juste un petit rappel, ce qu'est le compte de gestion et le compte administratif. Donc le compte de gestion sont les résultats du trésorier et le compte administratif sont les résultats de la commune. Évidemment, les résultats sont identiques sur les deux documents. Donc on va parler de résultats. Enfin, je pense que voilà, je ne vais pas faire distinction entre compte de gestion, compte administratif. On part du principe que ces deux documents sont équivalents. Et évidemment, avant le vote, on vérifie toujours si les écritures sont en adéquation entre la trésorerie et la commune. Donc quand on vote les documents, les vérifications ont été faites. Donc les résultats 2021. On a fait en fonctionnement 1 636 367,28 € de dépenses et 1 701 850,26 € de recettes, ce qui nous fait un excédent pour l'exercice 2021 de 65 482,98 €. L'excédent de clôture de l'année 2020 était de 181 404,90 €. Donc on vient ajouter à cet excédent de l'année 2020 l'excédent de l'année 2021, ce qui nous fait un excédent reporté de 246 887,88 €. Pour la partie investissement, total des dépenses pour l'année 2021, 912 485,23 €. Total des recettes pour l'année 2021, 802 800,86 €, ce qui nous fait un déficit pour l'année 2021 de 109 684,37 €, qui est ajouté au déficit de l'année 2020, qui était de 104 774,24 €, soit un déficit total de 214 458,61 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Une surprise.
Il y a toute l'analyse qui vient.
Et donc voilà, on va passer aux diapos suivantes. Donc évolution des dépenses et des recettes pour le fonctionnement. Donc depuis l'année 2013, je dirais que bon, les chiffres sont assez stables hein, dans l'ensemble. On a une légère augmentation au niveau des dépenses, mais les recettes augmentent également. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses. Je parle à Nathalie et Marie, hein, parce qu'ils sont un peu plus dans les comptes que moi. Il y a peut-être des choses à préciser. Enfin, globalement, il y a pas, on voit que la courbe, elle est linéaire et il n'y a pas de grosse augmentation. Voilà. On a quand même une maîtrise des dépenses et c'est sûr qu'on aimerait que les recettes soient bien plus hautes.
Voilà, c'est l'écart entre les deux courbes qui n'est pas suffisant.
Voilà.
C'est ça le problème.
Ensuite, la diapo suivante. Donc c'est l'évolution des dépenses de fonctionnement par chapitre. Je peux te laisser passer la... Voilà. Donc, forcément, le pôle le plus important en dépenses, c'est sont les charges de personnel, le 0,12, hein, c'est le bâton violet. Mais je dirais quand même maîtrisé, puisque il faut quand même prendre en compte que chaque année, il y a les avancements des choses des agents, il y a les petites mises à niveau des indices suite à l'augmentation du SMIC. Donc voilà, il y a quand même des augmentations qui sont explicables puisqu'il y a l'ancienneté des agents qui se paye également. Voilà, donc on a quand même des charges de personnel qui se maintiennent. Au niveau des charges à caractère général, on est passé de 267 000 euros à environ 303 000 euros, ce qui reste tout à fait correct pour une commune telle que Muriel. Je pense qu'au niveau des dépenses à caractère général, on ne peut pas faire plus maîtrisé. Enfin, je pense que ça risque d'être compliqué. Ouais. Voilà. Les attributions de compensation. Alors, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus ce que c'est. 0,14, c'est la métropole, voilà. le 65, charge de gestion courante, donc on va retrouver les indemnités des élus, les subventions, les cotisations, ce genre de choses. Et les charges financières sont essentiellement le remboursement des intérêts pour les emprunts de la commune. Voilà. Ensuite, l'évolution des recettes.
Les attributions de compensation, elles ont baissé sur les trois dernières années par rapport à ce que c'était.
Parce qu'on a une partie qui est maintenant en investissement.
Ouais, c'est ça.
Et les remboursements sur rémunération, là, c'est justement l'assurance qui rembourse les...
C'est sur les recettes ou les dépenses?
Là, sur les charges du personnel, les frais assimilés,
oui.
Les remboursements sur les rémunérations, c'est ce qu'on récupère de la CPM.
Enfin, tu vas le trouver dans les recettes. Oui. En fait, quand tu as des agents qui sont absents, évidemment, tu payes le salaire, donc tu as la dépense. Et tu auras la recette en face, mais qui va apparaître dans les recettes. Peut-être que si on voulait avoir le chiffre exact des charges de personnel, il faudrait faire la soustraction pour dire, voilà, réellement, on a dépensé ça pour les charges de personnel. Mais sur le budget, tu as la dépense, la recette est en face, mais on ne peut pas faire la soustraction, voilà, ça apparaît différemment.
Le coût réel, il faudrait faire la différence.
Voilà. Donc l'évolution des recettes.
C'est pour ça, si je peux me permettre,
oui.
On essaie de prévoir une enveloppe de dépenses en masse salariale pour l'année, mais certaines années, nous arrivait d'avoir beaucoup d'absences de maladie. Donc même si on était remboursé en recettes, il fallait quand même qu'on revote en décision modificative pour regonfler entre guillemets la ligne masse salariale, parce qu'il fallait qu'on ait abondé la ligne pour pouvoir payer les remplaçants entre guillemets. Donc même si en face il y a la recette. Donc ça gonfle le poste des dépenses.
On a une idée du taux d'absentéisme.
On pourrait le calculer.
On a la centralité qui nous est transmise, mais j'ai pas les.
On pourra vous les donner.
On a effectivement justement notre assurance statutaire nous fait chaque année.
Si vous voulez, à l'occasion, on pourra puis voir s'il y a les chiffres en comparaison, en évolution, puis en comparaison avec les autres communes, ce sera intéressant. On sortira ça vers nous.
Alors, évolution des recettes. Donc, le plus gros pôle, on va dire que c'est les impôts et les taxes. On voit quand même une baisse.
Significative
même, oui.
Désolé, significative.
Alors, ça peut s'expliquer, je ne sais plus, il me semble qu'il y a
en fait, en 2019,
les ventes de terrain, voilà, c'est ça, qui viennent bouger un peu. Voilà.
C'était ponctuel.
Oui.
C'est les taxes de constructibilité, de terrain devenu constructible, qui ont fait un boom en 2019 et un peu en 2020.
Il y a une
C'est pas dans les taxes.
Oui, non.
Impôts et taxes. Là, je suis dans les impôts et taxes. Dans les impôts et taxes, l'augmentation, c'est dû au fait qu'il y a eu tous les terrains devenus constructibles, puisque c'est une délibération qui a été prise sur la commune. Tous les terrains qui sont passés de zone agricole et naturelle en fait en zone U ou AU, y a une taxe quoi, qui est payée au moment de la transaction. Et donc ça a gonflé, je dirais, provisoirement le poste fiscalité, les bâtons violets en 2019 et 2020, mais depuis on redescend au niveau de 2017-2018, vous voyez, 2018, et donc on revient à un niveau...
Est-ce qu'il y a la totale partie des salignées là, ou il n'y en a qu'une partie
toutes les transactions ont quasiment été faites.
Hein. Ah ouais.
Celles qui restent, celles liées aux logements sociaux, mais il n'y aura pas de... Je crois qu'il y a une exonération sur les logements sociaux, donc je crois que là c'est fini. Hein. On est quasiment... Tout a été commercialisé, je pense pas qu'il
tout
reste...
Tout a été vendu peut-être. Il reste peut-être une parcelle.
Il y a eu un retard, ça va être échelonné... Oui. Je me souviens à l'époque, ça avait été échelonné.
Oui, mais là, ça y est, tout est commercialisé.
Là, tout a été vendu. De temps en temps, il y a une parcelle qui revient parce qu'il y a une vente qui ne veut pas se faire, mais elle est revendue dans la foulée. Pratiquement, on a les permis de construire sur toutes les parcelles. Donc, soit validées, soit en propre validation. Il ne reste plus que l'habitat participatif, le logement social, mais on va parler du lot où il y a des logements individuels. C'est les deux seuls lots où il n'y a pas encore de construction, le reste est construit. Oui,
Donc après, sur les autres chapitres, 013, je vais passer par le premier, atténuation de charges, c'est là où on va retrouver les remboursements sécurité sociale et assurance grâce à voix pour les absences des agents. Le 042 opération d'ordre, je dirais que c'est les travaux en régie, c'est ça. Ensuite, le 70, c'est produits de service, donc ce sont les recettes liées au tout ce qui est périscolaire, cantine.
Loyer.
Voilà, les loyers. Non, les loyers, ce sera en 75. Pardon. Mm. Donc, impôts et taxes, on vient d'en parler. Le 74, les dotations de l'État. On voit une belle baisse quand même depuis 2012. Hein. Voilà. Le 75, donc c'est là où on trouve les loyers, essentiellement. Et le 77, produits exceptionnels, donc ça va être les remboursements assurance en cas de sinistre, par exemple.
Voilà. Ou une vente.
D'un terrain, parce qu'il y a des écritures comptables à faire et ça, la recette se met là. Voilà.
Alors, les atténuations de charges, tu dis que c'est les remboursements de grâce à voix pour les absences, en fait. Oui. Donc, 79 000 euros.
Oui.
Et Nathalie nous disait tout à l'heure qu'on payait.
On paye 28 000
euros.
Ah oui. C'est étonnant que du restaurant, hein, d'accord.
La ration.
On a intérêt d'être assuré, hein.
Ouais. Ah, on a intérêt d'être assuré, mais c'est même étonnant qu'on continue à nous assurer. Quoi. Par contre, chaque année, ils perdent, ils perdent 50 000 euros.
Alors, t'as grâce à voix, mais il y a aussi la sécurité sociale dedans.
Là,
c'est pas que l'assurance du personnel. Ah. L'assurance du personnel, elle entre en jeu uniquement pour le personnel titulaire. Et quand on est sur des agents qui sont IRCANTEC, donc soit ils font moins de 28 heures semaine, soit ce sont des agents sur des CDD, c'est le régime général qui rembourse.
Ah oui, donc on ne peut pas
faire. C'est pas une totalité grâce à voix.
Ce serait intéressant quand même de connaître ce qu'on touche de l'assureur grâce à voix quand même. Par rapport à son
cotisme.
40 000 à peu près. Ah, Marie dit 40 000 à peu près qu'on touche de l'assurance.
Pour 28 000.
Pour 28 000.
Non, restons assurés.
11 000. Donc, comment ils peuvent. Capitalisation.
On passe le diapo sur
l'évolution de la DGF. Bon, la diapo parle d'elle-même.
La DGF, c'est quoi?
C'est la dotation globale de fonctionnement qui est calculée en fonction du nombre d'habitants. Et alors, il y a une décote qui est faite dessus en fonction des capacités d'une collectivité à augmenter ses recettes, notamment sur le bouclier fiscal. Donc, une commune qui a un potentiel important va voir sa DGF grévée de manière importante aussi. Voilà.
Donc nous, on a une double peine, entre guillemets, c'est qu'on a déjà une DGF qui diminue drastiquement, alors qu'elle se maintient dans certaines communes rurales plus...
Ouais, moi j'ai pas trop de... C'est vrai que j'ai pas trop de soucis sur ce point.
Alors que nous, elle a drastiquement baissé, hein, le cumul des pertes, si on avait touché tout ce qu'on avait touché en 2013, si on avait continué à le percevoir année après année, on aurait un trou de 750 000 euros, presque 800 000, je crois, de mémoire, en moins. En manque à percevoir en fait de la part de l'État, cumulé. Et en plus, cette DGF, elle est calculée, elle est un peu minorée pour nous parce qu'on a un potentiel fiscal élevé. L'argument est de dire qu'on a l'outil fiscal qu'on peut utiliser et que donc l'État nous met face à nous.
Mais avec l'arrivée de population, ça ne va pas justement
augmenter. Ça va augmenter un petit peu, oui.
Ça va augmenter, oui. Ça va réaugmenter, mais il faut être patient.
Oui.
Ah oui, il y a des reculs.
Il y a ça, et si tu augmentes les impôts au niveau de la DGF, tu es à nouveau, tu es allé chercher de la fiscalité, donc quelque part, tu es moins pénalisé.
D'accord.
Et je
ne
sais pas si ça va
bouger. Non, ça va bouger. Les impôts vont augmenter.
Mais en tout cas, l'impact de l'augmentation démographique, il va arriver dans un an ou deux, parce que les arrivées sont progressives. Deux, il y a une exonération quand même la première année ou les deux premières années, là, de 40%.
Première année, je crois.
Première année ou deux ans, je ne sais plus, une exonération de 40% sur la taxe foncière. Plus les arrivées progressives, veut dire que l'impact sur le budget, on va commencer à le voir en 2023 en fait, réellement. Donc d'ici là, il faut qu'on tienne le coup.
Alors ensuite, quelques ratios pour voir un peu comment on se situe par rapport aux moyennes des communes de même strate. Donc dépenses réelles de fonctionnement, on est à 803 euros par habitant, la moyenne est à 698 euros. Ensuite, ce qu'il faut prendre quand même en compte quand on parle des communes de même strate, c'est que Murviel, par exemple, va se situer au début d'une strate. Parce que la strate, elle va jusqu'à 3500 habitants. Donc les ratios, voilà, on les voit hein, tels quels, mais il faut quand même prendre en considération que nous, on va se situer au début de la strate avec un niveau de service qui est quand même important pour une collectivité qui n'est pas encore tout à fait à 2000 habitants.
C'est sur l'Occitanie, la comparaison?
Non, c'est des strates nationales. Oui, oui, c'est une strate, voilà. C'est pour ça que...
Si elles appartiennent à notre PCI ou pas.
Et voilà.
C'est 2000 habitants.
C'est 1000.
Entre 1000 et 3500, il n'y a pas des tiers.
Et voilà, il n'y a rien entre les deux. C'est pour ça qu'il faut être prudent avec ces ratios, parce que... Ouais.
D'accord.
Oui, puis ça dépend tellement des équipements qui sont dans la
bien
commune.
Bien sûr, exactement.
Le village qui n'a pas de crèche, qui n'a pas de...
Il n'y aura pas ces dépenses là.
C'est sûr qu'il sera à 500 balles. Hein.
Recettes réelles de fonctionnement, on est à 826 euros par habitant. La moyenne est à 858 euros. L'encours de la dette, on est à 496 euros par habitant. La moyenne est à 623 euros. La DGF, on est à 37 euros par habitant et la moyenne est à 148 euros.
Là, c'est là où ça blesse. Là, le bas blesse.
Là, il manque 100 euros dans le portefeuille par habitant.
Et oui, tout à fait.
C'est pour ça que c'est faussé un peu.
Oui, oui. Parce que communes de même strate, effectivement, on va rivaliser avec des communes qui sont dans des zones rurales. Tout à fait. Tout à fait. Voilà.
Alors les communes rurales aujourd'hui, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, parce que la plupart sont en communauté de communes aujourd'hui. Même dans les petits villages de 12 habitants, ils sont... Oui, ils sont obligatoires.
Dans les communautés de communes, il y a la rurale, la
rurale. Oui.
Ce qui est important quand même, c'est l'encours de la dette. On est relativement peu endetté. Enfin, c'est important parce que... On va soumettre ça dans le budget 2022. On va se laisser la possibilité de pouvoir emprunter cette année. Et à la fois, bon, c'est un des arguments, hein, mais ce n'est pas le seul. C'est que déjà, on est quand même pas... On a de la marge de ce point de vue-là. Et le contexte est favorable à de l'emprunt. Et il va pas l'être
pas trop tard. Ça ne va pas durer longtemps.
Ça remonte déjà.
Oui, oui. Ensuite... Alors c'est là où le bas blesse, on rentre dans le...
Donc l'autofinancement, pardon, c'est la capacité de la commune à dégager de l'excédent pour réinvestir chaque année. Voilà. Donc, excédent brut, on est à 130 euros par habitant, la moyenne est à 166 euros. Pourcentage MLM, c'est quoi
ça? MLM des Montpellier.
Ah, pardon. Désolée. Donc, en pourcentage, on est à 15 et la moyenne de la strate, 21%. Le taux d'épargne brut, on est à 34,63 euros par habitant. Moyenne de la strate, 149 euros. Si on est en pourcentage, ça fait 4% pour Murviel et 19% pour la moyenne de la strate. La CAF net... Du remboursement des emprunts, on est à moins 2,97 euros par habitant. La moyenne de la strate est à 83 euros. Donc en pourcentage, ça fait 0% pour Murviel et 11% pour la moyenne de la strate.
Donc là, la situation est claire. On est à 0% de financement.
Et c'est vrai qu'on a...
De capacité de financement.
Ouais. L'excédent n'est pas...
Notre excédent n'est pas suffisant pour pouvoir avoir une capacité d'autofinancement et en investissement. Oui.
Donc là, vous avez une petite définition de ce qu'est le taux d'épargne brute. Donc c'est un ratio qui indique la part de recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser la dette. Ce sont la partie des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement. On considère qu'un ratio qui se situe entre 8 et 15% est satisfaisant et en 2021 on est à 4%. Ça confirme le fait que on est un taux, on n'a pas de taux suffisant pour cette année par rapport à l'excédent qu'on a ressorti.
Donc ça veut dire qu'on arrive à équilibrer nos comptes en fonctionnement, mais on n'arrive pas à sortir d'excédent pour l'investissement.
Voilà. Donc ça, c'est un petit tableau pour voir un peu l'évolution de la CAF au fil des années. Donc c'est vrai qu'on a quand même eu des taux assez bas, de 2%. Et c'est vrai qu'on redescend, donc il faut absolument qu'on rehausse cette courbe si on veut pouvoir mener nos projets. Voilà.
En 2019-2020, on a pu réaugmenter grâce à la fiscalité, c'est-à-dire qu'on a eu cet axe de constructibilité qui nous ont permis d'avoir un peu d'air, entre guillemets, de remonter. On était bien parti. On était presque à 8%. 8%, on a commencé à être bien. Quoi. Et puis voilà, 2021, l'effet d'aubaine, entre guillemets, des taxes de constructibilité s'arrête et les effets de la croissance démographique sont toujours pas là. Quoi. Donc, on retombe dans un creux.
Donc, après un autre tableau pour la CAF net, donc c'est l'épargne brute sur lequel on vient déduire le remboursement du capital de la dette. Donc c'est une autre manière de calculer un peu l'épargne. On voit pareil qu'on
est
à zéro de toute façon. Donc, voilà. La capacité de désendettement, donc c'est un ratio qui indique la solvabilité de la commune. Est-ce que la commune est en capacité ou pas de rembourser sa dette ? Il va permettre d'indiquer le nombre d'années qu'il est nécessaire à la collectivité pour rembourser l'intégralité de l'encours de la dette en supposant qu'elle y consacre toutes ses ressources disponibles. Donc ce ratio doit être comparé à la durée moyenne de vie des emprunts. Ainsi, si le ratio de désendettement est de 15 ans, alors que la durée moyenne de vie des emprunts est de 13 ans, ceci signifie que la collectivité a les moyens pour rembourser sa dette en 15 ans, mais que celle-ci devra être remboursée en 13. Donc c'est un exemple qui explique que la collectivité doit améliorer son épargne brute afin d'atteindre un ratio au moins identique à la durée de vie moyenne de la dette. Il est généralement admis qu'un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est acceptable et qu'au-delà de 15 ans, la situation devient dangereuse. Et donc, nous avons une capacité de désendettement pour 2021. J'ai pas la colonne 2021.
Non,
ça s'arrête à 2020. En 2020, on avait une capacité de désendettement de 6 ans. Et par contre, j'ai pas, je sais pas, 2021.
On avait bien récupéré à partir de 2019, 2000, bien récupéré la situation, parce que ça s'était envolé avant. Et là, le problème, c'est que ça va à nouveau se dégrader, cette capacité des endettements, si on n'agit pas.
Ouais.
Parce que là, on était à 6 ans, 7 ans, on était.
Oui, c'est bon.
On n'a pas les chiffres sur 2021.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je
ne
sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est parce qu'il ne ressortait pas assez d'excédents.
Ouais.
Et puis, ça n'a pas été le transfert à la métropole ? Par rapport à la voirie, tout ça. En général, ça, ça prend un peu de temps.
On peut peut-être passer à l'investissement, puis on va venir.
Alors, évolution des dépenses et des recettes d'investissement. Donc 2021, c'est une année où on a fait quand même pas mal de projets en investissement, ça se voit sur la courbe. Les recettes ont augmenté, mais parce qu'on a des subventions qui sont rentrées, donc ça s'explique aussi. voilà, voir ce qui sera possible de faire avec le budget 2022.
Mais là, vu les gros investissements qu'on a fait 2021, c'est-à-dire à la fois terminer de payer l'escola, le restaurant scolaire, qui est comme un gros poste, plus les fonds concours qu'on met sur la voirie, parce qu'on a fait beaucoup de travaux sur la voirie, tout ça, ça s'est cumulé un petit peu sur 2021. On a payé encore beaucoup de choses sur 2021. Et on a des recettes qui arrivent en 2022, mais bon... il faut quand même qu'on calme le jeu en 2022 pour pouvoir recommencer. Comme on en a convenu, 2022, on le consacre à des menus travaux et aux quelques études qu'il faut faire pour pouvoir réengager des travaux, mais dans 2 ans. N'est-ce pas, Gilles, hein ?
N'est-ce pas.
On ne peut pas avoir tous les ans le rythme qu'on a eu sur... le rythme fou de travaux qu'on a eu dans les années. On n'a pas la capacité. Sur notre petite commune.
Alors, évolution des dépenses d'investissement. Donc, en la colonne bleue, c'est le remboursement du capital de l'emprunt. Donc, on a quand même un capital qui baisse d'année en année. Le chapitre 20 sont toutes les études qui sont faites. En fait, c'est là où on paye les études principalement. Le chapitre 204, je pense que ça a rapport aussi avec les fonds de concours. Le chapitre 204 en dépenses d'investissement, c'est ça ?
La CIM,
voilà. Le chapitre 21, c'est le chapitre essentiel, on va dire, de nos travaux en investissement. Tout ce qu'on fait en travaux, achats, c'est dans ce chapitre. C'est pour ça que la colonne est assez haute, c'est là où on fait le maximum d'investissement. Le chapitre 23, alors en général, on y paye des investissements en cours qui vont se faire sur plusieurs années. Et à la fin des travaux, on fait une écriture comptable pour rebasculer au 21. Voilà, le 23, on l'utilise que pour des travaux qui vont s'étaler sur plusieurs années. Et le chapitre 45, les fonds de concours.
Ben là, ils apparaissent dans le vert, les fonds de concours.
Oui, mais c'est parce que ça apparaît en 2015.
Oui. Donc, le 45, c'est le transfert de charges.
Voilà.
Au moment
quand
de
il
la,
y a eu
le transfert de la voirie, de la compétence. Donc, c'est resté en 2015 et 2016, parce que la métropole remboursait. Mm-hmm. Donc, c'était des charges.
Donc, c'était une année de transition.
Voilà. Oui, c'est ça.
Le 45 n'existe plus.
Et donc maintenant, c'est le vert. En fait, ce qu'on voit, les sommes en vert, c'est nos fonds concours. En fait, c'est ce qu'on met sur la
branche. Oui, c'est vraiment ça pour la métropole.
Donc on voit que c'est, pour le dire rapidement, le vert. Ça fait tous les travaux.
On est resté sur 6 ans. D'accord.
C'était un énorme...
Oui, d'accord. Donc, la capacité de désendettement, on est resté sur 6 ans pour 2021.
Voilà. Donc, c'est un indicateur qui est bon, voire même très bon. Mais c'est lié aussi au fait qu'on a peu de dettes.
Est-ce que c'est un argument pour emprunter ?
Si, c'est un argument.
Oui. Donc, diapo suivante, évolution des recettes d'investissement. Donc dans les recettes d'investissement, on va retrouver les emprunts que la commune a pu contracter. On va retrouver le remboursement de la TVA sur les dépenses d'investissement. Une partie de taxes d'aménagement, mais une toute petite part. On va retrouver les subventions de l'État. Et on va retrouver l'excédent de fonctionnement qu'on souhaite basculer en investissement chaque année. Voilà. Donc là, on arrive au vote du compte de gestion. Donc, ce sont les mêmes chiffres que j'ai présentés au tout début des diapos. On a un excédent pour clôturer en 2021 le fonctionnement avec 65 490,98. Que l'on ajoute à l'excédent de l'année 2020, ça nous fait un excédent total à reporter de 246 887,88 €. Sur la section investissement, on a un déficit de clôture pour l'année 2021 à 109 684,37 €, que l'on ajoute au déficit de l'année 2020, soit un déficit total de 214 458,61 €. Le résultat global de l'exercice 2021 est un excédent de 32 429,27 €. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les résultats, les évolutions ? Dans ce cas-là, je mets le compte de gestion 2021 tel qu'il vient d'être annoncé par Séverine au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc adopté à l'unanimité. Et puis je sors pour le compte administratif. C'est ça ?
C'est ça.
Monsieur Senot, vous pouvez prendre la présidence. Monsieur Senot, vous pouvez prendre la présidence en l'absence de Madame Touza pour le vote du CA.
Monsieur le doyen, c'est Jean-Claude Jouret.
C'est vrai.
Donc, priorité au doyen.
Si vous pouvez me dire ce que je dois faire.
En fait, il faut. Pareil que tout à l'heure, tu prends. Tu peux reprendre le tableau.
Tu résumes le tableau et.
Hein, tu reprends. Tu expliques que voilà, on a un total de dépenses en fonctionnement de cette somme, un total de dépenses en fonctionnement de cette somme. C'est exactement la même chose. Voilà.
C'est à bas dans un chromote, ça.
Voilà.
Alors, je reprends la synthèse vote du compte de gestion 2021.
Compte administratif, cette fois-ci.
Et c'est donc le compte administratif, cette fois-ci. Merci, Sylvain. En fonctionnement, donc, les dépenses s'élèvent à 1 636 367,28 €. Les recettes, 1 701 850,26 €. Qui détermine l'excédent de clôture 2021 de 65 482,98 €. Avec l'excédent de clôture reporté de 181 404,98 €, on a un total d'excédent de 246 887,98 €. En investissement, les dépenses s'élèvent à 912 485,23 €, les recettes à 802 800,86 €. On aboutit à un déficit de clôture 2021 de moins 109 684,37 €. Avec le déficit de clôture reporté de 104 774,24 €, on a un total de déficit de moins 214 458,61 €. Le résultat global de l'exercice 2021 s'élève donc à 32 429,27 €. Je propose au vote le compte administratif dont je vais l'évoquer. Qui est contre ? Je vous remercie d'avoir voté à l'unanimité. Et maintenant,
qui s'abstient.
Pardon. Donc, le vote du compte administratif est à l'unanimité.
Voilà.
Merci.
Merci.
C'est trop fort, c'est pas trop loin.
Oui. Hein.
C'est la
bonne.
Oui. Allez.
Merci. Alors, c'est bon, les bons.
On va changer
de ça.
Alors, on va aller chercher l'autre.
Ben oui, qui descend comme ça.
Ouais, hein. On peut changer le rideau pour 2022.
Bien sûr.
C'est gentil. Quel rideau ? La couleur, tu nous mets pas un rouge.
Est-ce qu'on passe directement à l'affectation du résultat ?
Oui.
Couleur.
Bah, c'est le... Je peux l'expliquer, mais bon, enfin, je ne sais pas. Ouais.
On va rater plus belle la vie.
Donc là, on passe à...
Ça existe encore, oui.
On passe à l'adoption à l'affectation du résultat 2021. Ouais. Donc Séverine.
Alors, l'affectation du résultat. On vient de voter les résultats de l'année 2021. Donc, on a vu qu'on ressortait un excédent en fonctionnement et un déficit en investissement. Ce déficit en investissement doit être couvert par l'excédent de fonctionnement. Donc, pour l'affectation du résultat, on avait un excédent de fonctionnement de 246 887,88 euros, mais on avait un déficit d'investissement de 214 458,61 euros. Donc ce qu'on va vous proposer au vote, c'est d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement pour combler le déficit d'investissement, à savoir retirer 214 458,61 euros de l'excédent global de fonctionnement. Donc ça va être une recette au 10-68 qui apparaîtra en investissement au budget 2022. Et il nous restera à reporter en fonctionnement un excédent de 32 429,27 euros. Donc ce qu'on propose aujourd'hui de voter, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec cette affectation ? Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition d'affectation de notre résultat fonctionnel ? L'idée est un peu de remettre les compteurs à zéro en investissement.
C'est ça.
Mais alors, pour pouvoir tenir ça, ça veut dire que dans notre budget, en fonctionnement, il va falloir qu'on soit cette année très, très, très rigoureux pour continuer à sortir de l'excédent en fonctionnement pour pouvoir maintenir un rythme les années suivantes.
En clair.
Faire des économies. Être,
en
voilà,
clair.
Faire très attention.
Encore en et clair, votre projet.
De moins de troll cette année, oui, 2022, oui. Là, on est à la fin de l'année. On se prépare les projets, on y réfléchit.
Au casting. Putain, on a des gros travaux.
Alors, par rapport à la fête. Par rapport à l'affectation, cette proposition d'affectation du résultat de fonctionnement, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc adopté à l'unanimité. Alors, merci. Alors là, peut-être je prends un tout petit peu la main sur le.
Oui, je te laisse. Pas de souci.
Donc là, on passe à la sixième affaire qui est, avant de passer au budget, dans le vote des taux d'imposition 2022. Donc je rappelle que dorénavant au niveau communal, au niveau fiscalité, on n'a plus comme levier que la taxe foncière, bâtie et non bâtie, puisque la taxe d'habitation a disparu. Et peut-être faire un petit rappel avant de proposer des nouveaux taux pour la taxe foncière. C'est de dire que on a vu tous nos résultats et les évolutions depuis des années de notre budget et de nos comptes, mais qu'en face de tout ça, on a réussi jusqu'à présent à taux d'imposition stable à faire de très nombreux projets. Donc ils sont listés sur la diapo, hein, mais on peut les rappeler, c'est la réflexion de l'esplanade des jeux pour enfants, la réflexion de la rue du Champ des Moulins, on a mis aux normes tous les bâtiments communaux, accessibilité, des gros travaux, on a fait l'extension de la cantine, sa modernisation, passage au self, on a restauré l'escola pour créer les locaux,
On a refait, il faut savoir, en 2015, des chemins ruraux suite à des épisodes de catastrophes naturelles. On a mis aux normes les archives, on a rénové la bergerie aux quatre filas, on a, grâce, dans le cadre des attributions de compensation avec la métropole, quasiment fini, il reste encore un peu l'ensemble de l'éclairage public qui est rénové. On a aménagé des jardins partagés, voilà. Donc tout ça, on a réussi à le faire grâce, jusqu'à présent, en restant sur une logique de se restreindre au minimum sur nos dépenses de fonctionnement et arriver à jongler, entre guillemets, avec des recettes qui stagnaient, voire qui évoluaient très peu au niveau de la fiscalité et qui baissaient au niveau de la dotation de l'État. Et là, on arrive, on l'a vu avec tous les résultats qu'on a analysés jusqu'à présent, qu'on arrive à une situation où on ne peut plus continuer comme cela, ou alors ça voudrait dire renoncer à mettre en œuvre tous les projets pour lesquels on s'est engagé. Alors on en a rappelé un bon nombre là dans cette diapo, c'est la requalification de la route de Saint-Georges à laquelle la commune va contribuer, mais c'est surtout un financement GGL et métropole, mais c'est quand même un très gros chantier qui coûte. Et c'était des engagements, ça aussi. La requalification du parvis des écoles aussi, un engagement politique de longue date qu'on va enfin pouvoir faire. Ce ne sera pas des travaux pendant le mandat, mais c'est déjà lancer l'opération Cœur de Village avec des études. Ce n'est pas des études, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous seconder, nous appuyer dans le lancement de l'opération, mais qu'il faut s'inscrire, c'est un engagement. On a un engagement, c'est de créer des toilettes publiques. Donc il va falloir qu'on les fasse dans les années qui viennent. On aura la création d'un nouveau cimetière à assurer aussi dans les années qui viennent. Toujours poursuivre la mise aux normes d'éclairage public, mais on va quand même bientôt y arriver. Il y a aussi, je ne l'ai pas mis là, mais il y a des chemins ruraux qu'il va falloir qu'on entretienne. Il va y avoir à faire aussi sans doute dans le mandat la rénovation thermique des écoles et du centre de loisirs. On a aussi comme projet, c'est annoncé, de restaurer l'ancienne mairie, place Béca, pour y pouvoir y refaire des appartements, des locaux, peut-être professionnels au rez-de-chaussée. Tout ça dans le cadre aussi d'une rénovation énergétique. Là, l'objectif, c'est aussi de tirer des ressources pour la commune, à partir des loyers. Voilà. Donc là, c'est des projets qu'on a mûrement réfléchi au sein de l'équipe municipale, qu'on avait annoncé dans nos engagements. Et qu'il nous faut pouvoir mener à terme. Il faut qu'on finisse l'avenue du Champ des Moulins vers le. Merci Patrick, au niveau de là, ça c'est pour 2023. Voilà, donc énormément de projets où nous sommes attendus. Et aujourd'hui, nos capacités, comme le montre la diapo suivante, où là c'est une comparaison non pas avec la strate, Laurence, mais avec les autres communes de la métropole. Et ça, c'est un graphique qui nous a été donné dans le cadre des études qui ont été menées sur le pacte fiscal et financier de l'échelle métropolitaine, où c'est tout ce que nous a dit déjà Séverine, qu'on est un excédent brut. Comment tu dis ? C'est pas excédent brut, c'est. C'est ça, 4%.
L'épargne
brute, voilà, qui est très basse. Et alors, on est bien en dessous du. Là, on a toutes les 31 communes de la métropole. Et on voit qu'en termes d'épargne brute, on est à un niveau. On est la commune la plus faible de la métropole. Voilà, en termes de taux d'épargne brute. On n'est pas en dessous du seuil d'alerte, on est juste au-dessus, mais on est.
Sur le seuil de vigilance.
On est sous le seuil de vigilance. Et on est la commune qui a le plus faible taux d'épargne de toute la métropole. C'est un élément quand même, on ne se compare pas par rapport aux strates, là, on peut se comparer avec d'autres communes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de nombreuses communes sur la métropole qui bénéficient de recettes historiques liées par exemple à de l'activité économique. Voilà, par exemple, et bien d'autres, toutes celles où il y a des gros centres commerciaux, bénéficient de recettes dont nous, Murviel n'a pas. Nous, nos seules recettes, c'est les taxes foncières, c'est la dotation de l'État, nos ressources propres qui sont quand même pas très développées. Donc ça, c'est un élément important quand même, on arrive à un seuil qui est quand même très bas. donc du coup, comme on le disait, nos capacités d'investissement, le taux d'épargne brut et donc des capacités d'investissement très faibles. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les explications qu'on a faites tout à l'heure. Même si on fait toutes les économies possibles sur le fonctionnement, on a des dépenses salariales qui croissent tout doucement parce qu'il y a acquisition d'ancienneté, etc. Et puis parce qu'on a un taux d'inflation qui s'applique sur toutes nos dépenses. Hein. Alors il était faible ce taux d'inflation jusqu'à présent. Il risque fort d'augmenter, notamment sur les postes énergie, etc. et d'autres. Ça, on va voir, on l'a pris en compte dans le budget. Mais voilà, des dépenses qui sont croissantes malgré tous les efforts qu'on fait en termes d'économie. Et des recettes d'État, on l'a vu, qui diminuent drastiquement. Je vous dis, hein, si on cumule, c'est 800 000 euros. Vous imaginez avec 800 000 euros ce qu'on aurait fait si le niveau de dotation était resté le même.
Il ne faut pas le dire à Gilles.
Ah, c'est sûr.
Depuis 2014.
Vous nous aurez dépensé en deux temps comme au moment.
Oui, tu regarderas toutes les dépenses. C'est comme au
donc, ça, c'est donc tout ça pour expliquer pourquoi, au final, on va proposer de faire une augmentation du taux de la taxe foncière bâtie, hein, et non pas non bâtie, juste bâtie. Parce qu'il nous faut pouvoir avoir ces recettes qui nous permettront de mener tous ces projets, tout en continuant à rester très rigoureux au niveau du fonctionnement. Donc, l'idée, c'est que cette augmentation de la taxe foncière bâtie qu'on va proposer n'alimente pas le fonctionnement, mais alimente bien, nous permet bien d'alimenter notre budget d'investissement via l'excédent. En regonflant notre capacité d'épargne. Juste pour rappel, quand même, Murviel est une commune qui a un potentiel fiscal élevé par rapport au reste des communes. Alors, on n'a pas mis le graphique, mais on pourrait vous le redonner des autres communes de la métropole. On est dans la moyenne haute. Donc là, on se base sur le potentiel fiscal, hein, des revenus en fait, des habitants. Donc on a rappelé ici l'autre élément de contexte, c'est la baisse de la DGF, et puis auquel on peut rajouter aussi, on l'a noté là, l'arrêt des contrats aidés. Ça c'est depuis 2017. La baisse de la DGF date de 2013 exactement. Ça a été instauré en 2012 sous Hollande et ça a continué depuis toujours, ça ne s'est jamais arrêté. L'arrêt des contrats aidés, c'est depuis 2017. Et là aussi on avait des recettes qu'on a pu. Un autre élément aussi de... Alors, il ne faut jamais dire c'est mieux ailleurs ou c'est moins bien ailleurs. Donc, on fait comme ça. Ce n'est pas forcément un élément, mais quand même, ça permet de se comparer un peu quand même. Aujourd'hui, ce tableau montre permet de nous situer par rapport aux autres communes en termes de taux d'imposition, taxe foncière. Alors, attention, entre 2020 et 2021, il y a une différence. Parce qu'à partir de 2021, on intègre la part départementale. Vous savez que dans les taxes foncières, il y a une part métropolitaine, il y a une part communale, il y a une part départementale. Et donc maintenant, le département ne perçoit plus cette taxe foncière à sa part, c'est nous qui la percevons. Et donc on ajoute l'ancienne part communale, la part départementale, pour faire maintenant le taux que nous, on pilote. Et donc vous voyez que à Murviel-les-Montpellier, c'est en jaune, le taux de la taxe foncière bâtie, il est à 40,82. Il est bien inférieur. Le taux actuel moyen sur la métropole est à 46,18. Et au niveau de la taxe foncière non bâtie, pour votre information, alors là, on n'a pas, y a pas eu de transfert du département. Donc on reste sur la part communale. On est à 70,5 alors que la moyenne sur la métropole est à 103,07. Donc Murviel, historiquement, on est sur des taux relativement faibles par rapport à la moyenne de la métropole. Après, là, vous voyez tous les taux qui sont pratiqués dans toutes les communes voisines. Dernier élément d'information quand même pour expliquer pourquoi on en est arrivé aussi à cette décision. Il faut savoir que la dernière augmentation des taux, elle a eu lieu en 2009, c'est-à-dire il y a 13 ans. Et qu'entre-temps, depuis 2009, il y a juste eu une décision qu'on avait prise en 2016, non pas au niveau du taux, mais au niveau de l'abattement, qu'on avait passé de 15 à 5%. Mais en même temps qu'on avait institué cette baisse de l'abattement, en fait, on avait mis en place un abattement spécifique pour les ménages les plus modestes. Voilà. Donc, étant donné tout ce contexte, étant donné toute l'analyse hein, qu'on a faite de l'évolution de nos comptes qu'on vous a présenté, si on veut pouvoir continuer à mener nos projets sur la commune et ces beaux projets dont on a parlé, il est nécessaire de procéder à une augmentation du taux de la taxe foncière bâtie. Alors on a fait le choix au niveau de l'équipe municipale de ne pas changer le taux de la taxe foncière non bâtie. En solidarité aussi avec les agriculteurs qui pour une grande part sont aussi propriétaires, hein, exploitants, et qui notamment en 2021 ont subi des gros aléas avec le gel. Et donc l'idée c'est de ne pas pénaliser l'activité agricole. Donc la taxe foncière non bâtie reste à l'identique. Par contre, on propose une augmentation du taux de la taxe foncière bâtie de 4 points, ce qui la fait passer donc de 40,82% à 44,82%. Donc une augmentation de 9,8%. Ce qui permettra au budget d'amener 78 000 euros de recettes supplémentaires. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on aura 78 000 euros d'excédent en plus. Parce que malheureusement en face, on a, comme je vous disais, une augmentation on s'attend à une augmentation des dépenses du fait du taux d'inflation et du fait aussi du fait qu'il risque d'y avoir une augmentation du point d'indice au niveau des employés. Ce sont des revendications syndicales qui ont cours actuellement au niveau national. Bien entendu, les décisions seront prises, je pense, après les élections hein, présidentielles. Mais de nombreuses collectivités anticipent le fait qu'on ait aussi une augmentation du point d'indice cette année. Donc une partie de ces 78 000 euros va... Alors on va continuer à être très rigoureux au niveau du budget de fonctionnement hein, pour pouvoir continuer à essayer de dégager un excédent suffisant pour abonder l'investissement. Mais malheureusement, malgré tout ce qu'on fait comme effort, il y a une partie de ces 10 euros qui vont être absorbés entre guillemets par ce contexte inflationniste et d'augmentation probable de l'indice. Voilà, j'arrête là. Est-ce qu'il y a des observations,
L'observation, c'est que je pense qu'on est un peu trop vite dans nos projets, peut-être. Moi, je dirais plutôt qu'on calme le jeu sur l'ancienne mairie PSDK, la création de nouveaux cimetières et le lancement du cœur du village, décalé de l'an, pour limiter ben, justement notre fiscalité un petit peu plus bas que les 10%.
Mais là, on a.
Oui, c'est ce que je pense. Discuté,
oui, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, même si on va beaucoup plus bas, si on diminuait le taux, là, c'est pas énorme. Hein. C'est vraiment pas énorme ce qui sort. Comme 78 000 euros, c'est...
78 000, 80 euros.
80 euros, c'est déjà peu. On a fait le minimum, vraiment le minimum qui était... envisageable. D'autres observations, oui.
Sachant qu'on continuera d'être quand même largement inférieur à la moyenne des communes...
On continue à être en dessous de la moyenne de la métropole.
On sera à 44,8 et la moyenne actuelle est à 46. Sans les augmentations futures des autres communes, donc on sera quand même
Sachant que beaucoup de communes aujourd'hui en France, et c'est pas que Murviel, vont augmenter leur taux, ça a été annoncé partout, Ils n'ont pas le choix puisqu'ils ont une diminution, ils sont comme nous, hein, c'est exactement la même chose, ils ont une diminution des recettes drastique de partout. À un moment, il faut bien augmenter. Et aujourd'hui, pratiquement toutes les communes ont annoncé une augmentation. Voire très rares celles qui n'auront pas d'augmentation.
C'est vrai que ce n'est pas une décision facile à prendre, mais voilà, il n'y a pas eu d'augmentation de taux depuis 13 ans, depuis 2009. Il y a un moment où voilà, on a essayé tout ce qu'on a pu. Hein. Mélanie ?
La taxe d'habitation, elle existe plus ?
Non.
Elle est gelée.
Elle est à la commune ?
Oui. Oui. Et on a une compensation.
Elle est compensée.
Elle est compensée, mais gelée. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne peut plus augmenter. Avant, la taxe d'habitation, c'est comme la taxe sur le foncier. Tu pouvais, en tant que mairie, augmenter ou diminuer, enfin, choisir ton taux. Là, maintenant, tu ne peux plus. Il a été gelé, fixé par l'État, un jour, à une année J, et maintenant, tu toucheras toujours le même montant.
Non.
Enfin, avec certains indices.
Avec les adaptations liées au nombre d'habitants.
Au nombre d'habitants, ton taux ne bougera pas. Ton taux ne bougera pas. Donc, résultat, tu vas perdre.
C'est le seul levier qui nous reste, en fait, fiscal, c'est la taxe foncière.
Ouais.
Il n'y a plus d'autre.
Sachant que l'État se désengage de plus en plus, là, c'est pour toutes les collectivités. Aujourd'hui, c'est les collectivités qui supportent les charges et qui sont obligées d'augmenter les impôts. C'est une réalité.
On en parle, parce que
c'est... Eh oui.
Qui d'autre veut intervenir sur ce sujet ? Pas d'autres interventions ? Donc du coup, je mets aux voix le vote de ce nouveau taux. Alors, taxe foncière bâtie à 44,82% et taxe foncière non bâtie, le taux reste à 70,50%. Il reste inchangé. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, merci beaucoup de votre solidarité dans ces temps, dans des décisions pas faciles et dans des temps difficiles. Donc maintenant on passe au point suivant qui est l'adoption du budget. Je te redonne la main, Sophie, pour le budget primitif 2022.
Oui. Donc les dépenses de fonctionnement, on a essayé de prendre en compte justement l'augmentation de l'inflation sur les charges à caractère général. Et d'habitude, on appliquait une augmentation de 2% sur chaque ligne de dépenses. Et cette année, on a appliqué une augmentation de 3%. Pour les charges de personnel, on a pris en compte les avancements d'échelon et la réévaluation de l'indice où apparemment on aurait également une augmentation de 3%. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les chiffres que vous pouvez voir.
Après, en recette, on voit l'effet un petit peu au niveau de la fiscalité des nouvelles recettes qu'on peut escompter. Mais on voit que la dotation elle continue à diminuer. Quoi. Ce sont des tas. On passera au vote des deux en même temps, tout à l'heure.
Oui, on passera à l'investissement en même temps. Oui. Donc là, on partirait sur un budget en section de fonctionnement, équilibré en dépenses et en recettes. Avec un total de 1 852 423,24 €. Sur la partie investissement, donc sur 2022, on trouve pour la partie dépenses. Pas si j'énumère tous les chapitres, ça risque d'être un peu long. Donc, en gros, hein, les projets, vous avez les études, les fonds de concours, hein, la métropole, qui ça, on ne peut pas y échapper. Hein, faut bien les noter. Et après, vous avez toutes les parties des travaux qui sont prévus, enfin des projets en investissement pour cette année. Donc une partie toujours de travaux sur l'entretien des bâtiments communaux, des aménagements de l'espace public, essentiellement. Et quelques études pour voir ce qu'il sera possible de faire dans les années futures, notamment pour les logements Place de Cas, par exemple, ou le projet Cœur de Village.
Il y a quelques dépenses qui nous restent sur les projets passés, terminés, à solder.
Oui, c'est ça.
Voilà, la cantine.
On a toujours l'extension de la cantine qui reste à solder, quelques dépenses, et pour nous permettre aussi de demander le solde des subventions qui vont avec ce projet.
On a aussi une dépense qui n'était pas prévue, c'est les 31 000 euros de chaudière à l'école,
ouais,
qui sont déjà engagés, hein, début 2022. Et vous voyez la ligne fonds concours, donc cette ligne fonds concours, à partir de 2023, elle n'existera plus. Puisque là, c'est le dernier fonds concours qu'on vote pour terminer pour solder le champ des moulins, qui aura quand même été un énorme chantier qui nous aura coûté beaucoup en fonds concours, puisqu'on subventionne la métropole, hein, tout ça, faut savoir. Et à partir de maintenant, tous les travaux qu'on mène, notre contribution, on a vu avec la métropole, faut que ce soit, ça s'intègre dans l'attribution de compensation, dans les 74 000 euros. À partir de 2023, tout va être les dépenses, notre contribution, je dirais, à ces travaux sera intégrée dans la CIE. Donc, ça faisait quand même 80 000 euros, c'est pas négligeable. Arrêtez. Alors après, il y a l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour lancer l'opération Cœur de Village. Donc là, c'est tout l'appui qu'on va bénéficier pour mener la concertation et puis pour faire le cahier des charges, les différents scénarios, le cahier des charges pour... et ensuite, si tout va bien, on espère recruter l'aménageur, organiser le concours et tout. Et donc là, on a mis une enveloppe, on l'a bien estimée, on espère que ce sera moins. Mais il faut savoir que c'est une avance, parce que l'idée, c'est que l'aménageur nous rembourse ensuite ce montant-là. Donc c'est de l'avance de trésorerie, mais qui logiquement se fait rembourser.
Donc après, vous avez le récapitulatif de la section fonctionnement et de la section investissement. Donc comme je disais, en section fonctionnement dépenses recettes, on est à 1 852 423,24 €. Et en section d'investissement, dépenses et recettes, on est à 804 884,84 €. Donc dans les recettes d'investissement, on projette un emprunt à hauteur de 100 000 €. Pour équilibrer en fait nos dépenses, sachant que si on veut emprunter, il faut pas tarder parce que les taux ont tendance à monter chaque semaine. Donc voilà, je pense que si on veut emprunter, il faut le faire dans les semaines qui vont arriver pour pouvoir bloquer les taux sur les propositions.
On retrouve dans le budget d'investissement le fameux solde de 214 458,61 € qu'on a voté tout à l'heure et qu'on a...
Mais vous avez la recette qui est en face au chapitre 10. Donc globalisé, ça fait 249 458,61 €. Mais dans cette somme, il y a les 214 000 qui ont été pris sur l'excédent de fonctionnement. Voilà.
Alors, on vote les deux budgets séparément, fonctionnement et investissement, ou c'est...
Oui, on
vote ensemble. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur le, peut-être avant de voter, sur le budget de fonctionnement tel que vous l'avez sous les yeux? avec les différentes lignes. Est-ce qu'il faut qu'on les lise à voix haute, là,
les différents chapitres?
Non, vous les avez sous les yeux. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget d'investissement? Donc, pour rappel, hein, en votant ce budget, vous votez chacune des lignes, donc c'est-à-dire que vous ouvrez quelque part des montants sur chacune des lignes qui va permettre ensuite à Marie et à Nathalie de pouvoir régler, engager les dépenses et régler les factures. Et s'il s'avérait en cours d'année qu'une ligne... qu'on dépasse une ligne là, ben on doit faire ce qu'on appelle une décision modificative pour qu'on puisse continuer à engager les dépenses, puisque sinon le trésorier refuse à chaque facture que l'on paye, il regarde si la ligne, s'il reste de l'argent sur la ligne. Ces lignes ne sont pas fongibles entre elles.
Sur la ligne du jeu Esplanade, il me semblait qu'on avait eu acheté un jeu pour petit, jamais vu. Ça me semblait que ça c'était dans
Nathalie.
Le sujet. Alors, petite fleur un peu
aiguille. Hein, il a été acheté, il a été livré. Ils sont venus le poser. Mais il se trouve que le sol n'est pas adapté, il manque 2 cm. Ça coûte très cher de l'adapter. Donc on va rendre le jeu et on en rembourse.
Parce que s'il fallait qu'on adapte le sol, il y en a pour 2000. Le jeu reviendrait à 5000.
C'est pour information, parce que j'avais le souvenir de ça.
Ils sont venus au préalable, ils n'ont pas fait attention à ça. Effectivement, au moment de la
dépositionner.
Non, c'est pas bon. Il a été livré il y a très peu de temps. Il a été acheté il y a longtemps, mais il a été livré il y a très peu de temps. Donc ça fait beaucoup.
Qu'est-ce que ça veut dire, TER? Alors, vas-y, Séverine, les travaux en régie.
Les travaux en régie. Donc, ce qu'on appelle travaux en régie sont les travaux qui sont effectués par notre personnel technique. Donc, ça va être des travaux d'entretien, de valorisation de notre patrimoine. Si on fait intervenir une entreprise, ce sont des travaux que l'on peut payer en investissement. Parce qu'on amène de la valeur à notre patrimoine. Si on fait faire ces travaux par nos agents techniques, ça nous coûte moins cher, mais par contre, on paye ces travaux en fonctionnement. Et pour pouvoir valoriser le patrimoine, on fait une écriture comptable des travaux en régie, c'est-à-dire que tout au long de l'année, les travaux en régie, on va les payer en fonctionnement, et à la fin de l'année, on récapitule tout ce qui a été fait travaux en régie, on va émettre un titre de recette en fonctionnement et on va venir mettre cette dépense en investissement pour valoriser le travail et permettre d'apporter de la valeur sur le patrimoine là où les travaux ont été effectués. Ouais. Voilà, c'est ça les travaux en régie.
N'aurait-on pas pu mettre une somme un peu plus élevée, eu égard tout simplement aux travaux qui sont réalisés par l'équipe technique?
Alors à propos, on ne peut pas tout mettre, pas mal de choses hein, dans les travaux en régie.
Ça me semble peu eu égard, je veux dire, à tout ce qu'ils font.
Après, c'est ciblé aussi hein, sur ce qu'on peut passer travaux en régie. Donc, effectivement, on peut faire plein de choses. Hein,
le problème, c'est que les travaux, quand on fait faire des travaux, par exemple, je prends le terrain de boule, hein, on aurait fait faire le terrain de boule, on en avait peut-être pour 12 000 euros. D'accord ? Si on est subventionné à 80%, on ne paye que les 20%. Par contre, quand on les fait, nous, en régie, ben c'est zéro. Voilà. Donc, bilan, ça se demandait si ça vaut le coup de faire des travaux en régie.
Il faut savoir réfléchir.
Il y a
des
subventions sur les travaux, mais quand on n'en a pas. Et puis, ils ne font pas que des travaux qui sont subventionnés.
Non, mais le terrain de boule, il aurait été subventionné si on avait fait faire. Par rapport à des petits bricoles, oui, mais en fait, ils font... C'est vrai qu'ils se mettent à faire des travaux qui seraient subventionnables. Mais... Ah oui, mais ils en font beaucoup, oui, c'est clair. C'est clair. Bon.
Après, il y a l'aspect comptable, budgétaire, c'est ça, c'est un équilibre. En fonction des travaux, est-ce qu'il vaut mieux une entreprise? Et puis on inscrit ça notamment au fameux FAIC du département qui nous subventionne à 80%. Ou est-ce qu'on le fait en régie? Après, c'est aussi, je pense, intéressant pour les services techniques de ne pas faire que de la routine entre guillemets, mais d'avoir de temps en temps des petits projets comme ça, sympa. Ça change un petit peu. Ça change, ouais. Donc c'est un dosage en fait qu'il faut arriver à bien établir, un équilibre. Là pour l'instant l'équilibre il est à 20 000, ça peut peut-être évoluer aussi au cours de. Et d'autres questions au budget?
Et les archives, on ne pouvait pas retarder un peu?
Non, parce que l'avenant est signé, en fait. Ouais, c'est déjà signé l'année dernière, ouais. Et on s'est engagé pour 2022, d'accord. Et dans la mesure où la convention est déjà engagée, il faut le voir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas-là, ben, on va mettre au vote le budget. Donc, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement séparés.
Oui, en même temps.
En même temps,
oui.
Ben voilà, c'est le budget primitif en fait.
C'est ça. Vous...
Alors, vous avez sous les yeux le budget primitif, fonctionnement et investissement pour 2022. Qui est contre ce budget que vous avez proposé? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et on arrive à la dernière affaire, Séverine.
C'est
les subventions.
La répartition de l'enveloppe pour les subventions. Donc pour 2022, nos propositions sont pour la crèche Les Cabrioles, une subvention de 37 612 euros.
Identique
à la subvention 2021, en sachant que la commune ne percevra plus la part de la CAF, c'est la crèche qui percevra directement cette subvention. Du coup, la commune maintient la subvention à la crèche dans sa totalité, en sachant qu'on aura une recette en moins par rapport à la CAF.
De 13 000
quelque chose. Voilà. Ouais.
Donc, au bout du compte, ça veut dire que la crèche, en fait, dans cette opération, touche...
Elle gagne 13 000 euros.
Elle gagne
13 000 euros de plus.
Voilà. Voilà. Les ardues, 1 000 euros. Art mixte, 3 200 euros. L'internaute, 3 000 euros. La coopérative école élémentaire, 635 euros. La coopérative école maternelle, 300 euros. La CAFCOP, 1500 euros. Le Club des aînés, 400 euros. Murviel VTT, 250 euros. Ripper Café, 250 euros. Ce qui fait un total de 48 147 euros.
Pardon, Gilles, tu dis ?
Ça explique qu'on verse.
Oui, vas-y. Par rapport à la coopérative, aux deux coopératives de l'école élémentaire, le mode de calcul, c'est...
C'est le nombre d'enfants.
C'est 5 euros,
5
par,
euros
enfant.
Par enfant.
C'est ça?
Oui.
Et on peut expliquer peut-être qu'on a fait des propositions aux écoles, si oui. Elles le souhaitent. Hein,
on a fait les propositions aux écoles. Madame Gasto n'a pas souhaité répondre puisque... elle quittera ses fonctions à la fin de l'année scolaire et elle ne voulait pas parler pour la nouvelle directrice. Donc, ou directeur, pardon, je ne sais pas si c'est une femme d'ailleurs. Donc je pense qu'on refera la proposition quand la nouvelle direction prendra ses fonctions. Par contre, il y a monsieur Debout qui finalement trouvait la proposition intéressante.
Le travail de la proposition, c'est...
Alors en fait, je leur ai proposé soit... de peut-être réduire la part du budget aux fournitures scolaires, qui est de 60 euros par enfant, parce qu'en fait, je me suis aperçue que sur certaines collectivités, ils n'avaient pas 60 euros, quoi. Ils sont autour de, en moyenne, 40-50 euros. Donc, est-ce que réellement, il y a un besoin de 60 euros par enfant pour acheter des fournitures scolaires? Donc, soit on pouvait réduire cette part-là et du coup augmenter la partie
projet,
voilà, passer de 5 peut-être à 10, voire 15 euros. Ou alors, l'idée c'était de leur fournir 65 euros par enfant, on leur verse tout sur la coopérative et après ils gèrent leurs commandes et leurs factures au niveau matériel et au niveau projet et ils se répartissent comme ils veulent. Donc, c'est sûr que Madame Gasto a soulevé que ça allait lui faire beaucoup plus de travail. Hein. Effectivement, il y aura des factures à payer, tout ça.
Mais pour pas d'argent en plus, quand même, il faut le dire.
Non, il n'y a pas d'argent en plus, c'est juste que
c'est du boulot et pas d'argent en face, quand même.
C'est pas, mais en fait, l'intérêt pour eux...
Mais l'autonomie, ils en font quand même ce qu'ils veulent de cet argent.
Non, parce que quand c'est la partie budget scolaire, il nous faut une facture et c'est payé en mairie. C'est Marie qui s'occupe de payer.
Ça ne peut être que sur du...
Sur des affaires scolaires, c'est pas des projets, c'est pas pour payer une sortie, par exemple. Maintenant, si demain on leur verse tout sur la coopérative, eh ben, c'est eux qui vont gérer un peu les sommes comme ils veulent. Donc ils peuvent très bien dire une année, on va utiliser que 40 euros en fournitures scolaires et le reste, ce sera sur un projet. L'année d'après, dire, bah non, sur les fournitures scolaires, on va plutôt dépenser 50 euros parce qu'on a moins de projets. Ils auront beaucoup plus de liberté sur les dépenses, en fait.
Ça éviterait aussi qu'ils nous plantent des projets... au dernier moment, et tu demandes des aides. Enfin, ils l'avaient parti cette année.
Non, moi, c'est un des
ouais. Avec 5 euros par enfant, ils ne peuvent pas aller très loin. Hein. Ils prennent le bus jusqu'à Pignan.
Non, mais si tu veux, sur le budget...
C'est pas beaucoup, quand même. Hein.
Oui, mais c'est la commune, et puis il y a aussi d'autres subventions de la part de la mairie.
Oui, et puis, ils font des manifestations.
Ils ont la coopérative scolaire. Enfin, voilà, c'est pas que la commune,
les
projets.
C'est bien, mais c'est vrai que
ça paraît. Non, mais après, nous, on anticipe les choses aussi.
Voilà. Donc, après, c'est vrai que Madame Gasto avait tendance à dire que le budget fourniture était totalement utilisé, que les enseignants l'utilisaient totalement. Et là, Monsieur Debout a eu une réflexion en disant « Oui, mais si on a tout, moi, je verrai autrement mon budget. » Voilà. Donc...
Ah, mais ça, c'est la logique. Si on dit qu'il y a 60 euros pour les fournitures, les 60 euros sont dépensés
pour les murs.
Donc, il y a une réflexion à voir.
Voilà. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est les fournitures, c'est le même prix partout. Et pourquoi dans des collectivités, les enfants ont 45 euros et à Murviel, ils ont 60 euros. Le prix d'un stylo, c'est le même pour tout le monde, quoi. Comme c'est une somme par enfant. Donc je pense que, voilà, pour moi, il y a peut-être des choses à voir et réfléchissement, c'est peut-être la solution. Mais ça, ce sera à voir avec la nouvelle direction.
Avec la nouvelle.
Voilà.
Sinon, par rapport aux subventions telles que sont... on est au même niveau de subvention que les autres années, hein, sur les associations, je dirais, historiques,
avec moins d'associations,
les demandes. On a moins d'associations qui font les demandes. On en a une nouvelle cette année, c'est Repère Café. L'année dernière, on avait eu l'huile d'olive. Enfin, après, selon les années, il y a des petites différences.
Suivant les besoins, les projets.
Ouais. Donc, vous avez sous les yeux le tableau des subventions. Ah oui, attention. Alors, ici, les personnes qui ne prennent pas part au vote sont les personnes qui sont concernées par les associations. Donc moi, par exemple, je ne prends pas part au vote.
Dans les bureaux des associations.
Ils sont dans les bureaux. Donc moi-même, en tant que membre du bureau de la CAFCOP, je ne prends pas part au vote. Laurence Rousseau, c'est ça ?
Moi, c'est pour
Armixte, qui est administratrice Armixte,
oui.
Ne prend pas part au vote. Mélanie Arnal, qui elle est salariée de Internaute, ne prend pas part au vote. Est-ce que d'autres personnes ici souhaitent ne pas prendre part au vote ? C'est bon ? Donc, ces trois personnes ne prenant pas part au vote, je mets donc au vote. Qui est contre ces subventions ? Qui s'abstient ? Donc, c'est adopté à l'unanimité, moins les trois personnes qui n'ont pas pris part au vote. Merci à tous. Et nous vous remercions. Merci Nathalie, merci Marie, merci Séverine. Ah, joli.
Celui-ci, il est bouclé, c'est bon.
Merci beaucoup, merci pour tout ce travail. Et puis. Et on va faire donc juste une annonce. On va rester là avant qu'on termine l'enregistrement. Une annonce, donc c'est l'inauguration samedi matin. Rendez-vous pour tous ceux qui peuvent. À 10h à la station d'épuration.
Avec des masques.
La station d'épuration de Nouvielle étant assez unique en son genre, il y en a qui disent comme ça en France, c'est ma technologie, vous voyez.
Ah, c'est dommage, je
pas. Et à 11h, l'inauguration au site archéologique. Et il y aura un petit buffet. Si on vous pose la question, l'inauguration est totalement ouverte à tous. C'est totalement public. Pour votre information, on a eu hier une réunion avec les riverains par rapport à aux travaux route de Saint-Georges qui s'est vraiment très bien passé. C'était des questions hein, très pratiques, d'organisation, etc. Et ça a été dans un état d'esprit vraiment très compréhensif. Et il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'il y avait quoi?
Il y avait 60 chaises et les gens étaient plus de 70 personnes.
70 personnes. Et donc on aura une réunion publique le 23 avril, samedi matin à 10h30, où on abordera un nouveau sujet avec l'ensemble des Nouvelles-Lois. Voilà, ben on peut cette fois arrêter le conseil municipal.